La communion trinitaire. Monseigneur Jacolin nous invite d'emblée à contempler la communion trinitaire, source de notre communion fraternelle. Qu'en connaissons-nous ce que le Christ nous en dit? Dimanche dernier, le diable essayait de mettre un doute en Jésus sur sa qualité de fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, il attaquait cette communion entre le Père et le Fils. Une communion venue de l'engendrement du Fils par le Père. Un engendrement qui n'est pas d'un temps originel, mais de chaque instant, depuis toute éternité jusqu'à l'infini du temps. Le Verbe de Dieu tient son existence et jaillit à chaque instant de l'existence de Dieu le Père. Il est l'éternel engendré du Père, le Fils par excellence. Et nous entendons dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 29, Jésus nous dire « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ainsi, nous découvrons un Jésus, le Verbe fait chair, toujours en lien avec son Père, qui se tourne sans cesse vers celui qui l'aime, celui qui le nourrit, celui qui lui fait confiance et l'envoie. Cette présence du Père au Fils et du Fils à son Père est continuelle. Nous voyons Jésus se retirer pour prier. Au chapitre 6 de l'Évangile de Luc, verset 12, « En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Avant toute décision, Jésus prenait un long temps de prière, par exemple avant le choix des disciples, avant et pendant les premières journées de ministère public à Capharnaüm, après la multiplication des pains et avant de marcher sur les eaux. Jésus vit de l'union avec Dieu son Père, de qui il reçoit force et paix, amour et confiance, de qui il reçoit l'Esprit Saint. Nous avons en mémoire cette parole en Luc, chapitre 11, verset 13. « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Jésus exprime cela par expérience filiale. Il peut promettre le don de l'Esprit Saint aux hommes parce que lui-même reçoit cet Esprit de son Père. Jean-Baptiste et ses disciples en témoignent lors du baptême de Jésus. Luc, chapitre 3, verset 22. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Ce don de Dieu à son Fils, nous le contemplons encore dans la transfiguration que nous célébrons ce dimanche. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Matthieu, chapitre 17, verset 5. Nous voyons encore explicitement cette relation vive au moment de la Passion. Souvenons-nous de l'agonie au Jardin des Oliviers. Matthieu, chapitre 26, verset 39. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Et au moment de sa mort en croix, si la mort fait son œuvre en lui au point d'accueillir en lui l'incompréhension du silence de Dieu, Jésus manifeste pourtant une dernière fois sa confiance en Dieu son Père. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et un peu plus loin, en verset 46, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Dans son enseignement, Jésus transmet ce dont il vit fondamentalement. « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. » Évangile de Jean, chapitre 15, verset 1. Jésus nous porte en lui pour que nous soyons vivifiés, nourris, taillés par le Père. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Voilà que Jésus nous introduit dans cette communion de vie qui l'unit à son Père. Toujours Évangile de Jean, chapitre 15, verset 9. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. » Cette longue prière sacerdotale adressée à son Père, au chapitre 17, est le testament qui nous greffe sur le don absolu de Dieu à son Fils. Il nous introduit à cette vie trinitaire en nous donnant l'Esprit Saint. Chapitre 15 de l'Évangile de Jean, verset 26, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Et au chapitre 16 de ce même Évangile de Jean, verset 13, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Et un peu plus loin, verset 15, « Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Je m'arrête un instant de parler à ce point du commentaire et des citations du Christ pour laisser l'Esprit Saint parler en vous. Nous avons contemplé la relation de Jésus à son Père. Nous avons entendu le Père confirmer Jésus dans sa mission, le désigner comme son Fils bien-aimé. Nous venons d'accueillir la promesse de Jésus de nous envoyer l'Esprit pour nous révéler qui est Dieu, pour nous lier à lui des liens de vie et d'amour qui sont les leurs en propre, par nature, par substance divine, par origine. Ces liens entre eux peuvent devenir liens entre Dieu et nous par participation. Jeudi dernier, à l'école d'oraison, le père Sarrazin, prêtre de Notre-Dame de Vie, reprenant les mots du bienheureux père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, nous invitait à contempler l'Esprit Saint dans le cœur de notre prochain, dans le cœur de nos frères et sœurs. Oui, l'Esprit nous unit à Dieu le Père par le Fils. Ce que nous n'arriverions jamais à obtenir par nos mérites et nos forces, nous le recevons par grâce, en cadeau d'amour. Pendant quelques instants de silence, laissons l'Esprit Saint nous façonner dans cette promesse divine, dans cette introduction à la communion divine entre le Père et le Fils. Si vous voulez prolonger cette contemplation de la communion trinitaire, vous pourrez reprendre chez vous la prière de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Le deuxième temps de la lettre de Monseigneur Jacques-Collin est de nous introduire à la communion fraternelle, à partir de la communion trinitaire. Quelle tâche immense, impossible. Nous sommes si divers. Nos perceptions, nos compréhensions, nos choix idéologiques sont tellement différents. Il y a 1000 manières d'aborder ce monde. Il y a 10 000 manières d'être proche de Dieu. Il y a 100 000 manières, et davantage encore, d'être disciple du Christ. Autant de figures de disciples, de figures de sainteté qu'il y a de chrétiens. Regardez-vous, regardons-nous. Nous pourrions croire que la communion fraternelle, à partir de là, n'est pas réalisable, juste utopique. Dans une simple famille, combien de séparations, combien d'affrontements. Et pourtant, une même éducation, une même histoire d'enfance devrait unir les frères et sœurs au-delà des options de vie. Mais les disputes, les violences verbales ou physiques, les propos qui détruisent, les rancœurs enfouies, chaque jour creusent des fossés entre frères et sœurs, des fossés ou des murs. Qui brisera ces enceintes qui nous enferment? Qui jettera des ponts pour renouer des relations, permettre à la justice de nous ajuster les uns aux autres? Les exemples bibliques ne manquent pas pour exposer devant nous, hors de nous, ce que nous vivons. Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, Joseph vendu par ses frères, Moïse, Aaron et Myriam, les relations des disciples de Jésus entre eux, les relations entre les apôtres dans les actes des apôtres, les relations entre les premiers chrétiens. Autant de miroirs pour nous renvoyer nos visages défigurés dans la méfiance et la haine des frères et sœurs. Autant de situations où Dieu apporte son salut. Si nous avons regardé, contemplé la communion trinitaire, c'est pour renaître en elle, jusque dans nos relations fraternelles. Nous sommes appelés à vivre entre nous de l'amour de Dieu pour tout homme. Comment être chrétien et se détruire encore les uns les autres? Comment être chrétien et ne pas se reconnaître, ne pas se saluer, s'éviter même? Où il peut y avoir des myopies, il peut y avoir des distractions, des fatigues. Mais quand l'évitement du frère ou de la sœur est permanent, la vie de disciple n'est pas réelle. Vous entendez Saint Jean dire, celui qui dit aimer Dieu sans aimer son frère, pardon, c'est Saint Jacques, celui-là n'est pas disciple de Jésus. Et Monseigneur Jacques-Collin, dans sa lettre, reprend la longue tradition chrétienne. Il cite l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. » Posons-nous la question. À quel signe puis-je affirmer que j'aime mes frères et sœurs dans la paroisse où je suis? Et quel signe me révèle que je suis loin de cet amour, que je suis même un opposant à cet amour? Entendons-nous l'apôtre Paul nous apostropher? Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Je vous traduis ce passage de Paul dans l'histoire de notre paroisse. Nous entendons, moi j'étais proche du père François, moi je me reconnais davantage chez Marcel Bidault ou chez Nicolas Paquier. Nous pourrions sans doute poursuivre. Des siècles nous séparent de la communauté de Corinthe, mais les divergences, les oppositions entre chrétiens n'ont pas vieilli. entre les fervents de Dieu et les serviteurs de la charité, entre les tenants d'une tradition ressourçante et les chercheurs qui veulent faire entendre l'Évangile dans le langage contemporain, dans les formes contemporaines, comment allons-nous nous rencontrer et vivre ensemble? Ma manière de vous conduire pastoralement veut vous faire comprendre que je ne veux être ni d'un bord ni de l'autre. Je vous ai annoncé en même temps dimanche dernier les projets d'adoration eucharistique perpétuelle et de diaconie paroissiale pour que nous grandissions ensemble sous le regard de Dieu à qui tout doit être ordonné et pour que nous soyons ensemble dans le service fraternel à vivre d'abord entre nous. Frères et sœurs, quelle habitude pourrions-nous ainsi prendre pour nous recevoir de Dieu et pour mieux nous accueillir comme frères et sœurs? Concrètement, de dimanche en dimanche, comment ressembler à Dieu? Comment nous recevoir entre frères et sœurs? Vous pouvez prendre à la page 8 de la lettre, Mgr Jacolin évoque un long passage du pape Jean-Paul II, la spiritualité de communion. Et quelques petites pistes nous sont données, un regard bienveillant, une attention à l'autre. Et je vous propose de marquer un second temps d'arrêt dans mon commentaire, mais cette fois en vous tournant l'un vers l'autre, les uns vers les autres, pour essayer de vous dire déjà quels petits gestes nous pourrions proposer et vivre à notre communauté pour être davantage frères et sœurs. On s'accorde quelques minutes entre nous. Alors, est-ce qu'on pourrait se donner la parole les uns aux autres? Je crois que je vais laisser tomber mes deux autres parties parce que je vois que l'heure avance. Ce temps-là est important. Je les poursuivrai dimanche prochain, rassurez-vous. Il y a un micro à chef. Avez-vous quelques petites idées à partager à l'ensemble de ceux qui sont là? Comment nous aider à être frères et sœurs au sein de la communauté paroissiale? Quelques idées. Et on ouvrira la possibilité à toute la communauté, par Internet, de proposer ses idées.
Moi, je vais tout simplement dire qu'il y en a déjà qui se vivent très fort. Vu les soucis de mon épouse, nous nous sentons portés par la prière des frères et sœurs de la communauté. Vraiment, c'est très fort. Et également, il y a plein de petits gestes merveilleux. On vient porter la communion. On nous apporte des fois certains repas, des paroles, des messages. Tout cela, en fin de compte, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la foi. Et ce matin, je disais à mon épouse, pourquoi prier si l'on a du mal à croire? Et en fin de compte, à travers tout ce que l'on vit et quand on voit ce qui est fait autour de nous, eh bien, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il faut absolument s'abandonner dans les mains de Dieu. Dans la foi, il faut vraiment avoir une foi profonde. Et là, tout peut arriver de merveilleux.
Alors, ce que dit Gérard à propos d'Élisabeth Est-ce que nous pourrions pas l'imaginer à propos de chaque malade de notre paroisse, qu'il y ait un endroit où nous puissions les nommer et qu'il y ait des parrains marraines qui s'engagent à les porter dans la prière, à partir de cet exemple vivant? Voilà comment grandir entre frères et sœurs. Y a-t-il d'autres idées? Sans doute. Des choses déjà vécues ou des idées nouvelles?
Je pensais à l'accueil aux portes de l'Église. Voilà. Et ça, c'est pas de moi, c'est inspiré par une rencontre avec le père Chrysostome qui nous dit qu'au Bénin, on accueille les fidèles aux portes de l'Église et on va même les inviter à s'asseoir à telle place parce que les églises sont tellement pleines qu'il faut serrer les rangs. Et plus encore, quand on s'assoit, on est prié de saluer son voisin. Voilà, je pense qu'un accueil à l'Église, et ça permettrait peut-être aussi d'accueillir surtout, pour moi, ce geste, il est destiné à ceux qui n'ont pas l'habitude de venir. Voilà, et se sentir inclus dans la communauté et non pas en retrait.
Merci Edouard. Mais déjà, est-ce que nous sommes capables, justement, par rapport à nos voisins, de donner leur prénom?
Je ne sais pas comment l'interpréter.
Y a-t-il des...
Moi, j'évoque les maisons d'évangile.
Oui, Marie-Thérèse.
Où on a une relation entre nous qui nous porte aussi. Parce qu'on se connaît mieux, on vit un peu notre foi ensemble, et pour moi, ça m'apporte beaucoup, et à mieux comprendre les autres.
Dans les maisons d'évangile, c'est la parole qui nous rassemble. Et on ose chacun tout simplement dire comment cette parole nous anime, nous réveille, comment on la comprend. Et ça nous relie très très fort les uns aux autres, c'est vrai. Alors on est dans un petit groupe de chrétiens. L'idée ce serait d'ouvrir à plus large pour que cette parole retentisse et soit connu surtout des autres personnes qui nous entourent.
Très bien, y en a-t-il encore un qui veut s'exprimer? Il est moins le quart. On va s'arrêter là. Je poursuivrai dimanche prochain, 10h15, 10h45, sur le témoignage de vie au jour le jour, et puis témoignage explicite de Jésus-Christ. Donc vous pouvez poursuivre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la lecture de cette première partie de la lettre de Mgr Jacolin. Et puis j'espère que nous aurons le temps, dimanche prochain, d'aller sur la deuxième partie également, avec la fiche 2 qui nous est donnée par le service de formation et de vie spirituelle. Nous nous préparons à la messe, nous pouvons saluer nos voisins, mais nous essayons de tenir un climat de prière pour ceux qui sont déjà là. Merci.